Et c'est cela que j'aimerais partager avec vous ce matin. Alors, dans un premier temps, j'aimerais rappeler que les écoles de psychologie moderne nient ou minimisent la question du péché comme facteur de culpabilité. Mais avant d'aller plus loin, une question, je crois, se pose, à laquelle nous devons trouver une réponse, c'est qu'est-ce que le péché ? Est-ce encore une idée moyenâgeuse de l'Église ? Le terme que la Bible emploie pour péché signifie littéralement manquer la cible. Et c'est exactement, je crois, le sens qu'il faut lui donner, ou qu'il faut retenir. Celui d'une vie qui manque son but, parce qu'elle est vécue en exerçant sa propre volonté, indépendamment de celle de Dieu. Les fautes qu'on appelle ordinairement péché n'en sont que des conséquences. La conscience des fautes commises a un rôle bien souvent plus important que ce qu'enseignent les théories psychologiques et les praticiens qui se fondent sur ces théories. Bien sûr, la conscience peut parfois être trop aiguisée, par exemple pour des raisons maladives, un cas de scrupule excessif. Mais, me semble-t-il, je dirais pour commencer, il ne faut surtout jamais sous-estimer le rôle de la conscience. Et la première des questions que j'aimerais qu'on se pose, c'est comment être en paix avec sa conscience. Alors, je dois avouer que je n'aime pas beaucoup cette expression, parce que pour moi, elle est trop relative à un référentiel propre à la conscience de chacun. Ce qui sous-entend que l'essentiel est d'être en accord avec ses propres valeurs. Au risque de faire frémir, je crois pouvoir dire avec une certaine conviction que les nazis étaient en parfait accord avec leurs propres valeurs. Je crois au contraire que la conscience, c'est en quelque sorte le reflet imparfait, rendu plus ou moins net ou plus ou moins flou, de l'éducation que l'on a reçue. C'est le reflet plus ou moins imparfait de ce que l'on considère comme étant le bien et ce que l'on considère comme étant le mal. Parce que finalement, c'est ce qui transcende les individus, tout simplement parce que cette conscience qui est innée chez chacun d'entre nous, elle nous vient de Dieu, d'un Dieu transcendant qui nous a créés. Qu'on le veuille ou non, la question de Dieu reste à tout jamais une question importante. Et à ma connaissance, il n'existe pas une personne qui, un jour, ne s'est pas posé la question de Dieu. Et je crois que ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit que Dieu a créé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et je crois pouvoir dire avec une certaine certitude que devenir chrétien, devenir chrétienne, c'est développer une conscience plus vive de ses fautes. Mais et c'est important, c'est surtout savoir et accepter que le Christ a payé sur la croix pour que mes fautes et mes péchés soient pardonnés. Et là, je vous renvoie à l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 4 et au verset 25. Être chrétien, c'est pouvoir revenir sans cesse à Dieu. Revenir à lui par la prière pour être lavé de ses fautes récemment commises. Et celui qui enseignait à pardonner 490 fois à la même personne, là je vous renvoie au chapitre 18 de Matthieu, en sachant que celui qui nous a enseigné à pardonner, nous pardonnera toujours. Donc, la première chose qui me semble importante, et qui est évidemment le fruit d'un travail de 35 années de ministère pastoral, c'est de dire, ça ne sert à rien de vouloir fuir sa conscience. Ça, c'est la première chose. Rappelons-nous la chute célèbre du poème de Victor Hugo, « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Mieux vaut, me semble-t-il, tout de suite chercher à régler cette question sur le fond et à fond. Et notre expérience quotidienne nous montre que la nature humaine nous pousse à commettre des fautes. Et si nous commençons à désespérer sur nous-mêmes, je crois que nous sommes dans la bonne direction. C'est bon signe. C'est précisément que nous sommes prêtes à régler cette question. C'est être prêt à recevoir le pardon, un pardon que nous ne devons jamais oublier, un pardon que nous ne méritons pas. Combien de fois ai-je entendu de personnes dans mon bureau me dire « Mais je mérite, Dieu me le doit, je ne mérite rien, Dieu ne me doit rien. » Il faut que les choses soient bien claires. Nous ne méritons pas, et nous appelons ça en théologie, la grâce. La grâce, c'est précisément ce cadeau qui est immérité. Sartre, c'était pour la question du péché. Maintenant, j'aimerais revenir sur un point qui me semble important, c'est la question de la culpabilité. Se sentir coupable ne signifie pas nécessairement l'être réellement. Le docteur Quentin Heider, dans son livre que vous connaissez peut-être, « Notre santé mentale, le point de vue chrétien sur la psychiatrie », au paragraphe 5 de la page 114, le docteur Quentin Heider dit « Il faut bien faire la différence entre le sentiment de culpabilité que rien ne justifie et la culpabilité véritable. » Selon lui, psychiatre et psychanalyste n'admettent pas l'existence d'une vraie culpabilité, ce qui amène à la théorie suivante en matière de psychothérapie. Une fois que le malade a compris pourquoi il se sentait coupable, il accepte que les faits aient lieu dans un passé auquel il ne peut plus rien changer. Par conséquent, il n'a plus à être tracassé. Les conflits évidents ou refoulés sont amenés dans le champ de la conscience dans l'espoir que le malade puisse les considérer avec sérénité. Hélas, parce qu'il y a un hélas, cette théorie n'est pas efficace dans la pratique. que les psys présents ce matin me pardonnent, mais je crois pouvoir dire avec certitude que cette théorie n'est pas efficace dans la pratique. Et comme l'indique très bien le docteur Quentin Heider dans son même livre, à la page 190 au paragraphe 16, seul le pardon peut procurer la paix. Être pardonné par la personne à qui l'on a fait du tort, c'est déjà un immense soulagement. Mais, dit le docteur Quentin Heider, se sentir pardonné par Dieu, cela seul peut ôter complètement notre sentiment de culpabilité. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Le pardon ne s'obtient pas en accomplissant de bonnes œuvres. Il ne peut venir que d'une relation rétablie entre deux êtres qui s'aiment. Et seul le pardon de Dieu peut procurer une paix intérieure. Nous savons en effet, nous chrétiens et chrétiennes, que Christ a payé le prix fort. Il a payé le prix fort pour que nous puissions être pardonnés. Et là, je vous renvoie à la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6. Dieu nous aime, nous le savons. Mais une chose que nous oublions et qui est extrêmement importante, c'est que Dieu nous aime inconditionnellement. Et c'est ce qui fait toute la différence avec nous. Car nous aimons, nous, conditionnellement. Je t'aime à condition que tu fasses ce que je te demande. Je t'aime si tu ne me fais pas de légumes. Ah, je vous aime parce qu'il n'y a jamais de légumes. Le pardon de Dieu, et c'est extrêmement important à le comprendre, le pardon de Dieu est un pardon qui est inconditionnel. Et ça, c'est extrêmement important de le savoir. Et le problème, c'est que cela n'est vrai d'aucune autre personne à notre égard. Même moi, après 41 ans de mariage, et Dieu sait que j'aime ma femme, je ne peux pas dire à Joël que je l'aime inconditionnellement. Ça t'étonne, hein, Yéni? Je suis content que tu le saches maintenant. Même les personnes qui disent nous aimer de toute leur force, de tout leur cœur, même les personnes qui nous sont les plus attachées, ne peuvent pas nous aimer inconditionnellement. C'est impossible. Et la démarche par laquelle le chrétien confesse ses péchés à Dieu et aux autres, s'il a offensé d'autres personnes, devrait donc être naturelle. Et les générations qui nous ont précédés et qui connaissaient la pratique de la pénitence, la pratique de la confession, je lisais dernièrement que par rapport aux années 60, c'est plus des trois quarts des catholiques qui ne se confessent plus à l'Église. Vous imaginez, c'est énorme. C'est énorme. Et donc les générations qui nous ont précédés, qui connaissaient la pratique de la pénitence, de la confession, ont largement, nous le savons aujourd'hui, usé de ce privilège libérateur. Même si ces conditions d'exercice de la pénitence et de la confession ne correspondaient pas toujours, loin s'en faut, à l'enseignement biblique, la démarche elle-même était pour eux bonne et saine. Puissions-nous en retrouver l'esprit afin de ne pas nous priver bêtement de l'intimité avec Dieu pendant des périodes prolongées. Prenons le temps de dialoguer avec eux, avec Dieu, de grandir avec Dieu. Ceci étant dit, j'aimerais maintenant répondre à une question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui, et en la matière, mes confrères pasteurs ont dit énormément d'âneries. Je le dis à personne, je le dis qu'à vous. Hein. Faut pas que ça sorte d'ici. Si ça sort d'ici, je saurais que c'est vous. Hein. Un chrétien ou une chrétienne peut-il ou peut-elle être dépressive? Pour ma part, j'ai entendu un jour des pasteurs s'en prendre à une jeune fille qui était dépressive et lui dire « Mais t'as un problème dans ta vie, toi. Il y a un péché énorme. Dieu ne veut pas de la dépression. La dépression, c'est être anti-chrétien. Un chrétien ou une chrétienne ne peut pas être dépressive. C'est à se coller une balle dans la tête. Ah si, dire des âneries comme ça, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Un chrétien ou une chrétienne n'est pas forcément plus intelligent qu'un non-chrétien et qu'une non-chrétienne. Rappelons-nous, Moïse lui-même cherchait des excuses devant Dieu qui lui donne la force malgré sa faiblesse naturelle. Je vous renvoie à Exode 4. Lorsque le peuple murmure... Philippe, tu peux couper là ? Merci. J'aime pas briller dans la lumière. On a un autre là. En plus, j'ai le stress de la conférence, alors... Lorsque le peuple murmure dans le désert, on voit Moïse qui de nouveau se décourage. C'est dans Nombre chapitre 11. Et comme il se décourage, tout de suite, Moïse en accuse Dieu. En se déclarant, je cite, dans Nombre 11, verset 11, « Je ne suis pas responsable quand je demande à mourir. » Prenons le cas de David. David qui avait un tempérament soucieux, mais qui aimait se confier en Dieu. Et là, je vous renvoie dans les psaumes, au psaume 9, au psaume 13, au psaume 25, au psaume 31 et d'autres. L'apôtre Paul se confie en Dieu. L'apôtre Paul confie ses faiblesses dans des lettres public aux églises. Et on voit dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 12, que l'apôtre Paul se confie à Dieu en reconnaissant que Dieu l'utilise dans sa faiblesse. Et il dit une vérité qui est extraordinaire et qu'il est bon de méditer, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis... » Il y en a six qui suivent. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Si des hommes de foi aussi éminents, et je vous n'en ai cité que deux ou trois, j'ai pas cité par exemple, un qu'on aurait pu citer, c'est Élie. J'ai pas cité le prophète Élie. Tous ont été sujets à la dépression. Et ma question est simple. Si ces hommes de foi qui ont été sujets à la dépression ont été, pourquoi donc ne serais-je pas, moi aussi, dépressif à un moment donné de ma vie? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible? C'est assez communément un sujet tabou, il faut le dire, dans nos milieux chrétiens. On n'aime pas parler de la dépression, parce que ce serait faire l'aveu d'une faiblesse personnelle, voire, chez certains pasteurs, d'un échec en matière de foi. Mais, au-delà de la foi individuelle, c'est le contenu même de la foi qui semble menacé. Quelle serait la crédibilité d'une foi qui ne permettrait même pas d'éviter la dépression? La vérité, c'est qu'une foi vivante en Dieu permet au contraire de mieux traverser l'épisode douloureux de la dépression. Nulle part dans la parole de Dieu, nulle part dans la Bible, il n'est écrit que le chrétien doit être miraculeusement protégé de toutes les épreuves. Si c'est marqué dans votre Bible, montrez-moi le passage. Moi, je ne l'ai jamais trouvé. Le Seigneur ne nous a jamais promis de vivre au Club Med toute notre vie. C'est dommage, ouais, mais c'est ainsi. Et c'est pour ça qu'il n'est pas juste de présenter la vie chrétienne d'un seul côté. Combien de fois ai-je entendu des pasteurs ou évangélistes prêcher aux inconvertis « Venez à Jésus-Christ, il vous apportera la joie, la paix, le bonheur, la sérénité !» En oubliant ce qui va avec. Parce que si ma lecture de la Bible est juste, et je crois qu'elle l'est, mais ce n'est pas présomptueux de ma part, hein. Je crois qu'elle l'est. Jésus a dit un jour, « Je vous envoie dans ce monde comme des brebis au milieu d'un troupeau de loups. » Moi, je n'ai jamais vu ce que ça donnait une brebis au milieu d'un troupeau de loups. Mais j'ai une idée quand même, hein. J'ai quand même une bonne idée. Et je répète, parce que ça me semble vraiment important. Nulle part dans la Bible, il n'est écrit que le chrétien va être miraculeusement protégé de toutes les épreuves. Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions. Quand j'étais petit, j'aimais prendre le métro pour aller rejoindre le restaurant de mon père. Et à l'époque, dans les années 60, les anciens se rappelleront, il y avait des petits distributeurs de chewing-gum. Vous mettiez une pièce de 20 centimes, vous tiriez, vous aviez votre chewing-gum. Eh bien, il existe encore des chrétiens aujourd'hui qui s'imaginent que la prière, c'est ça. Je prie, Seigneur, donne-moi, amen. Oui, amen, dans tous les sens. Hein. Amen, je tire et puis il exauce. Et si Dieu n'exauce pas, il n'est pas Dieu. Combien de fois ai-je entendu dans mon ministère, mais je prie, et Dieu ne répond pas. Ce à quoi je réponds, mais Dieu répond. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit non, c'est pour ça que vous ne l'avez pas. Non, mais c'est vrai. Nous voudrions toujours que Dieu nous donne ce que nous lui demandons. Et c'est tellement pratique d'avoir un Dieu qui danse quand je joue du pipeau. C'est tellement pratique d'avoir un Dieu qui m'apporte quand je lui demande. Si Dieu ne correspond pas à l'image que je me fais de lui, il n'est pas Dieu. Et c'est cette image-là que nous avons. Et c'est avec cette image-là que nous vivons. Alors, le temps passe, mais j'aimerais maintenant m'arrêter sur une autre question. C'est la question des moyens thérapeutiques. Partant de là, l'étape suivante, donc celle-ci, concerne ces moyens thérapeutiques. Et la grande question que l'on se pose encore aujourd'hui, c'est celle-ci. Un chrétien ou une chrétienne peut-il ou peut-elle prendre des médicaments? Eh oui, ça vous surprend, mais on en est là. Joël peut vous le certifier, parce que c'est tellement énorme que je prends Joël à témoin. On a connu un pasteur qui disait, à partir du moment où tu es chrétien, tu fous tes médicaments à la poubelle et tu pries Dieu, et Dieu va te guérir. Moi, je dis, c'est l'absurdité. Et j'ai connu des gens, une personne que j'aimais beaucoup avec Joël, que nous aimions beaucoup, cette personne est morte parce qu'elle refusait de prendre les médicaments parce que quelqu'un dans l'assemblée lui avait dit « Dieu va te guérir ». Alors, je vous laisse imaginer ce que ça a provoqué dans l'Église quand la personne est décédée. Alors, on va répondre à cette question bête. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que les réponses qui sont bêtes. Mais cette question, je vais quand même y répondre. Un chrétien peut-il prendre des médicaments? Un chrétien doit-il ou peut-il consulter un psychothérapeute? Si oui, celui-ci doit-il obligatoirement être chrétien lui-même? Il y a pas très longtemps, j'ai rencontré une chrétienne lors d'une conférence à Lyon qui est venue me voir en me disant « Écoutez, monsieur le pasteur, est-ce que vous pourriez m'indiquer l'adresse ou le numéro de téléphone d'un psychiatre chrétien ?» Et je lui dis « Mais vous savez, il y a des tonnes de psychiatres à Lyon. » Elle me dit « Oui, mais moi j'en veux un chrétien. » Je lui dis « Ah bon, pourquoi ?» Elle me dit « Parce que un chrétien, ça sera plus efficace. » Je me demande parfois où l'on va. C'est grave. Vivre sa foi comme ça, c'est grave. Alors, vous l'avez, je pense, subodoré en ce qui concerne les médicaments. Je résume ici ce que j'ai dit un peu plus en avance. Je ne pense pas, pour ma part, que les médicaments soient un substitut illégitime de la foi, dans la mesure où ils sont utilisés ponctuellement, de manière raisonnée, et évidemment non comme une fuite, devant notre propre responsabilité. Il est vrai que, dans la Bible, nous voyons le roi Asa, vous connaissez l'histoire, qui pêche parce qu'il ne va pas consulter l'Éternel, mais qui préfère aller voir les médecins. Vous connaissez ce texte, hein ? C'est dans 2 Chroniques, chapitre 16. Mais il faut le remettre dans son contexte. Hein. Ne jamais oublier qu'un texte pris en dehors de son contexte, on n'a pas le droit de s'en servir comme prétexte. Mais je dis que ce n'est pas la prise de médicaments qui est un manque de foi en elle-même. Je le dis parce que ça me semble important. Je discutais il y a très longtemps de ça avec un pasteur d'une certaine sensibilité que je ne nommerai pas, qui me disait « La prière est efficace, mon frère. » Alors je lui ai dit « Oui, je le crois, je suis pasteur comme toi. » Il m'a dit « Oui, mais à la différence de toi, c'est que toi, tu as un problème de dos. » Et je vous assure, je peux vous certifier que j'avais vraiment mal dans le dos, je te périais d'une hernie discale. Et il m'a dit, tenez-vous bien, « À la différence de toi, je ne crois pas à l'incrédulité, parce que tu es un pasteur incrédule. » Alors je lui dis « Ah bon, pourquoi tu me dis ça ?» Il me dit « Parce que si je t'impose les mains au nom de Jésus-Christ, je crois que tu seras guéri. Et si tu ne l'es pas, c'est ton problème, un problème de péché. » Ce à quoi j'ai répondu « Mais alors, explique-moi pourquoi, d'abord, je veux pas que tu m'imposes les mains. » Ça, c'est la première chose. La deuxième, maintenant, j'aimerais... Alors, je ne vais pas répondre à la question « Pourquoi hein, ?» parce que ça serait trop long. Je ne suis pas là pour ça. Mais il l'avait dit dans un contexte bien précis où lui et personne d'autre, par imposition des mains, guérissaient. Il y avait que lui, enfin bref. Et je lui ai posé cette question, je lui ai dit « Alors, comment tu comprends le texte de Paul quand il dit « J'ai prié par 3 fois et le Seigneur m'a répondu, ma grâce te suffit. » Et vous savez ce qu'il m'a répondu ? Il m'a dit « Alors, je dis avec certitude que Paul n'avait pas la foi. » C'est grave. C'est grave, mais ça existe. Ce n'est pas la prise de médicaments qui est le manque de foi en elle-même, parce que l'apôtre Paul n'aurait pas recommandé à son disciple Timothée de boire un petit peu de vin. Alors, tenez-vous bien, j'ai rencontré un jour un pasteur, et Joël était avec moi, donc elle s'en rappellera. Il disait « Dieu est contre le vin. Le vin, c'est le diable. Un chrétien ne boit pas de vin. » Et alors je lui dis « Mais comment tu comprends le texte où Paul dit à Timothée « Bois un peu de vin. » Ah, il ne lui dit pas ça. Il lui dit « Prends du vin et frotte-toi l'estomac avec. » Joël est là. Elle peut vous dire si je mens. Voilà, simplement, voilà où on en est quand on reste enfermé dans ses certitudes. On en arrive à croire n'importe quoi. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est que je crois pour ma part que Dieu n'aurait pas confié l'une des 4 biographies de son fils à Luc, qui était médecin. Ok. Alors, pour ce qui est des psychothérapies, on peut, comme pour beaucoup de choses, en dire le meilleur et le pire. Le pire, c'est le cas où le psy pratique une méthode inefficace, plus complexe que la maladie elle-même, ou en tout cas douteuse quant à ses fondements ou ses pratiques. Et je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que le temps me manque, mais vous imaginez bien à quoi je pense maintenant, au lien avec l'occultisme. Je discutais avec une personne un jour qui me disait « Moi, je suis une méditation par les plantes. » Alors je lui dis, écoute, si c'est efficace, vas-y, il n'y a aucun problème. Elle me dit, oui, mais j'ai un problème, parce que je doute. Je lui dis, tu doutes de quoi? Il me dit, à un moment donné, il m'ausculte, et avant de me prescrire les médicaments, il part dans son cabinet, je ne sais pas ce qu'il fait. Et là, je lui dis, écoute, il faut que tu te renseignes, il faut que tu vois ce qu'il fait. Et un jour, elle me retéléphone, et elle me dit, maintenant, je sais ce qu'il fait. Il utilise le pendule pour chercher le bon médicament. Et là, je lui dis, vite fait, hein. Change de médecin, vite fait. Je pense ici à des pratiques, et ça existe, il ne faut pas se leurrer. Je pense ici à des pratiques occultes. Le meilleur, c'est le cas où le psy aide au contraire le malade à prendre du recul. À prendre du recul par rapport à ses raisonnements, à ses attitudes, prendre du recul à ses attitudes de vie, afin de pouvoir plus efficacement les réformer. Et le cas idéal, et bien sûr celui où ce psy partage les mêmes convictions morales, les mêmes convictions religieuses que son patient, ce qui évidemment permet à ce dernier de se sentir pleinement compris dans ses choix. Le recours à un psychothérapeute n'est pas, me semble-t-il, une alternative à l'aide que peut apporter un conseiller chrétien. Je pense ici à un pasteur, je pense aussi à un conseiller en relation d'aide. Je pense à un responsable d'église formé à la relation d'aide. C'est une aide qui peut s'exercer par des entretiens individuels. C'est une aide qui peut avoir lieu, et on le sait, lors de week-ends, de séjours, de stages, de retraites. Et je reste quand même moi-même convaincu, en tant que chrétien, que les praticiens de la santé et les responsables chrétiens devraient pouvoir mieux travailler ensemble. Alors, c'est un sujet qui n'est pas le nôtre, on ne va pas en parler maintenant, mais je crois qu'il est très important que nous soyons à l'écoute les uns des autres. Le quatrième sujet que j'aimerais toucher, c'est le sujet de la confiance. La confiance en soi ou la confiance en Dieu ? C'est une question commune à l'ensemble des moyens de soins et de guérison, et celle de la confiance en soi. Faut-il restaurer la confiance en soi alors qu'un chrétien va se définir comme quelqu'un qui place avant tout sa confiance en Dieu ? C'est ça la question. Parce que beaucoup de gens disent « Mais moi, je veux bien placer ma confiance en moi, mais avant tout, je place ma confiance en Dieu. » Je pense, pour ma part, que sur ce point, les mots prêtent à confusion. En effet, la confiance en soi, qui est l'orgueil, la présomption, la suffisance, tout cela, évidemment, est opposé à la foi. Opposé à l'humilité, qui est la plus élémentaire. Et il n'est évidemment pas question ici de la développer. Nous pourrions à tort nous glorifier de la moindre parcelle de force, la moindre parcelle d'intelligence, jusqu'à ce que nous viennent les questions que l'apôtre Paul pose aux Corinthiens. Et la question que Paul pose aux Corinthiens, c'est celle-ci. Es-tu capable de me dire ce que tu as qui ne t'a été donné? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi est-ce que tu t'en vantes comme si tu ne l'avais jamais reçu? C'est dans 1 Corinthiens 4, verset 7. Par contre, Il me semble que l'homme, ou la femme évidemment, a besoin d'une dose suffisante de bonne conscience en soi pour accomplir les gestes quotidiens. Utiliser l'ensemble des capacités que Dieu lui a données. La cinquième question, c'est les méthodes de relaxation. Peut-on utiliser les méthodes de relaxation et est-ce que ces méthodes ne sont pas opposées à la vie chrétienne ? J'ai mentionné tout à l'heure le danger que pouvaient présenter les philosophies ou orientations religieuses sous-jacentes à certaines méthodes de relaxation. Et en préparant cette étude, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il ne serait pas juste d'en rester là, privant de ce fait les chrétiens de moyens naturels, de moyens bienfaisants, de trouver un repos physique ou un repos nerveux. C'est pourquoi j'aimerais vous recommander une méthode, la méthode que j'appelle la méthode des trois RE, R-E. Respiration, relaxation, récapitulation. Il s'agit ici de trois domaines de la personne qu'on a déjà mentionné dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, où l'apôtre Paul touche le corps, l'âme et l'esprit. Alors, le corps, c'est la respiration profonde, l'âme, c'est la relaxation obtenue par l'apaisement mental, et l'esprit, c'est la récapitulation, c'est-à-dire à la fois reconstitution et remise en cohérence, mais aussi acte de se replacer dans l'allégeance à un chef. Il est, nous semble-t-il, en effet reconnu que le réflexe de relaxation s'appuie sur la conjugaison de quatre facteurs. Un environnement calme, une position confortable, un mécanisme mental et une attitude passive. Ce qui peut, à juste titre, gêner les chrétiens que nous sommes. Parce que c'est la pratique d'un mécanisme mental avec lequel le chrétien est plus ou moins à l'aise et qui, joint à l'attitude passive nécessaire, pourrait ouvrir, on va le dire comme ça, son esprit à des influences spirituelles extérieures néfastes. Vous l'avez tout de suite compris. Quand on nous dit qu'il s'agit de vider son esprit, on a quand même ici un doute. Le mécanisme mental proposé est complété par la capitulation. En effet, nous sommes, c'est vrai, trop souvent tendus. Et si nous sommes trop souvent tendus, c'est précisément parce que nous voulons tout contrôler. Nous avons besoin régulièrement dans la journée et impérativement le soir retrouver une confiance. Comment retrouver une confiance enfantine en Dieu ? La seule manière de retrouver notre confiance enfantine en Dieu, alors quand je dis une conscience enfantine, c'est tout simplement une confiance qui ne se pose pas de questions. Je vous donne un exemple. Un jour, j'ai placé ma fille qui avait 3 ans ou quelque chose comme ça en haut d'un muret, et je lui ai dit « Ma chérie, saute dans les bras de papa !» Et elle a sauté. Elle n'est pas restée sur le mur en se disant « Oui, mais alors attends, mon père est en bas, moi je pèse 4-5 kilos, si je chute à la vitesse 2, ça va faire... Est-ce que mon père sera capable de me rattraper ?» Elle ne s'est pas posé la question. Chérie saute dans les bras de papa, elle a sauté. C'est cette confiance-là dont je parle. une confiance enfantine qui fait que je me confie en Dieu, que je confie ma vie en Dieu. Je me souviens que quand on a commencé notre ministère, il y a maintenant 35 ans, on parlait dans le ministère pastoral de préparer notre retraite. Et les pasteurs qui nous visitaient nous disaient « Mais attention, à votre retraite, vous ne toucherez rien. » Alors, on est bien placé aujourd'hui pour le savoir. Hein. On ne va rien toucher. Il faut la préparer. Et moi, Joël et moi, et d'autres pasteurs, d'autres collègues, bien pensants, qui aimaient le Seigneur et qu'on aime toujours le Seigneur, on dit « Mais le Seigneur pourvoira, on s'en fout, on ne va pas dépenser de l'argent à mettre à la banque. Le Seigneur nous donnera ce qu'il nous faut. » Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on part d'une paroisse, on n'est plus assuré d'un salaire et qu'on est rétribué parce que ce qu'on a touché. Et ce qu'un pasteur a touché, c'est finalement presque nul. Donc la retraite est pratiquement nulle. Mais qui va se poser la question? Est-ce que vous connaissez une paroisse qui va dire « Mais comment vit notre pasteur maintenant qu'il a la retraite ?» À la limite, on s'en fout un petit peu. Hein. Mais c'est cette question-là dont je parle ici. Une confiance qui est une confiance enfantine. Et Christian, d'ailleurs, j'en profite parce que tu es en face de moi, a écrit un superbe article sur la retraite des pasteurs. Lisez cet article de Christian, il vaut son pesant de cacahuètes. Il est vraiment super. Je crois que nous devons capituler. Capituler, qu'est-ce que ça veut dire? Capituler, pour moi, c'est se soumettre à la tête. Capituler, c'est se soumettre au chef. Et, à moins que vous puissiez prouver le contraire, le chef du chrétien, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ dont il porte le nom. Jésus-Christ qui est entré dans le plan de Dieu, consistant, je cite, à ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ. C'est Éphésiens chapitre 1. Littéralement, il ramène les capitulés. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il ramène les capitulés. Et si nous voulons, parce que c'est notre souhait à tous, dire, non, je ne vais pas le dire, j'en avais marre quand je dis ça, mais ça, tu l'as déjà dit. Alors, pardonnez au vieux, je suis raboté, que celui qui n'est pas d'accord me jette la première chaise. Je le dis toujours. Je sais que c'est vraiment sur le point qui m'a dit, mais tu l'as déjà dit. Mais vous ne pourrez pas me prouver le contraire. Il me semble que pour moi, en tant que chrétien, pour que nous puissions nous décharger de tout souci, c'est 1 Pierre chapitre 5. Il y a d'abord, et ça passe d'abord, pour se décharger de tout souci, il faut d'abord, en premier lieu, une soumission totale à Dieu. En reconnaissant combien nous sommes tout petits, combien nous sommes rien, et combien lui, Dieu, il est immense. Puis, nous devons aussi, et c'est important, nous garder de l'adversaire spirituel. Et là, je vous renvoie à 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Capituler, c'est donc abandonner, c'est lâcher prise, c'est se soumettre complètement et trouver le repos et le sommeil dans cet abandon et super bienfaisant. Seigneur, j'ai décidé que tu allais prendre les choses en main. Le problème à moi, il est très simple aujourd'hui. C'est que je pars en retraite à la fin du mois d'août et qu'il me manque 10 ans. J'ai passé des heures et des heures au téléphone avec l'URSSAF de Lille, qui s'occupe de mon dossier, qui m'a dit « Mais on ne vous retrouve pas, monsieur le pasteur. » Et ça veut dire que vous toucherez ce qu'on vous a dit, 540 euros. J'ai dit « Mais comment je fais? Moi, j'ai 550 de loyer. Il me manque 5 euros. Et puis, comment je vais payer le reste ?» On ne peut rien faire. Il vous manque 10 ans, on ne vous retrouve pas. Alors, il y a une solution. C'est celle qui consiste à courir partout. Et puis dire, ce n'est jamais arrivé. Mais il y a une autre solution aussi. C'est celle de dire, écoute Seigneur, moi je ne peux rien faire. Je ne vais pas aller à Lille, parce qu'ils vont ils ont paumé mon dossier, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Moi, Seigneur, je me confie en toi. Et ça, c'est ma prière. Et je dis, Seigneur, dans 2 mois, il faut que tu résolves ce problème. Sinon, je suis perdu. Et je me confie en Dieu. Et cet abandon qui est bienfaisant, je vous assure,
c'est que sereinement j'attends la retraite. Et que c'est le problème de Dieu. C'est plus le mien. Je lui ai confié, c'est à lui. C'est plus à moi. Et si je conjugue ainsi ce mécanisme naturel dont Dieu a pourvu chacun d'entre nous, je développe une discipline mentale qui est l'occasion, je le dis, d'une élévation spirituelle. Plus je me confie en Dieu, plus je grandis spirituellement. Alors, puisque je parle de retraite, je vais parler maintenant de la retraite spirituelle. Quand j'ai mentionné tout à l'heure l'occasion que nous donnent les retraites, je voudrais recommander cette pratique qui consiste à savoir périodiquement se mettre à part. Se mettre à part pour méditer sur l'essentiel et pouvoir ainsi aller de l'avant sans s'épuiser. Je pense ici à Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, qui savait se ménager des occasions régulières pour prier. Et si vous regardez bien les textes bibliques, vous verrez que le Seigneur Jésus se ménageait des occasions régulières pour prier et qu'il y associait souvent une pratique que nous avons oubliée dans notre Église aujourd'hui. C'est le jeûne. Qu'est-ce qui est sympa, ce livre ? Je ne sais pas comment je vais faire de mon prénom. Il y associait le jeûne. Jésus jeûnait. Et que nous avons oublié cette pratique. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que c'est un autre problème et un autre sujet. Et il me semble que dans notre époque hédoniste, ces pratiques religieuses sont tombées complètement en désuétude. Et nous encourageons, nous les pasteurs, bien rarement cette pratique. Prier et jeûner, je le dis tout de suite, n'ont pas une vertu magique. L'acte en lui-même de jeûner ne va pas nous rapprocher plus de Dieu. C'est lorsque nous nous mettons sincèrement et complètement à l'écoute de Dieu qui nous écoute, qui nous répond. Et là, je vous renvoie au psaume 78 dans Jacques et dans Jean. Je voudrais revenir sur un thème que j'ai abordé lors d'une conférence, mais qui va bien dans celle d'aujourd'hui, c'est le thème du pardon. Pour approfondir l'ensemble du thème de la dépression dans une perspective chrétienne, je vous renvoie ici à le thème de la culpabilité dont on avait parlé la dernière fois. Je crois que nous devons adopter dans notre vie chrétienne, et je crois qu'il n'est jamais trop tard pour commencer, entendons-nous bien, j'entendais un jour une personne âgée, on va dire comme ça, me dit « Oh, ce pasteur, je suis trop vieux maintenant pour mettre ça en pratique. » Je crois qu'il n'est jamais trop tard pour bien commencer. Et la première des choses, je dirais, il nous faut revenir à une discipline spirituelle. Alors, le mot « discipline » dérive du mot « disciple ». Et les conseils que j'aimerais vous donner maintenant supposent bien évidemment que vous ayez accepté que Jésus-Christ soit mort sur la croix pour vous, que vous viviez une vie nouvelle sur la base de la foi, c'est le message de la Bible. Je vous propose aussi, et c'est tout à fait libre de votre part, si vous voulez aller plus loin dans cette connaissance, pourquoi pas de rechercher l'aide d'un conseiller chrétien ou d'un conseiller chrétien qui serait apte à vous guider dans votre lecture de la Bible et qui peut-être priera aussi pour vous. Il y a un premier principe de discipline spirituelle à appliquer dans nos vies chrétiennes, je viens de le dire, c'est celui du pardon. Il est pour moi primordial de se mettre en règle avec Dieu. Et je crois que tout le reste en dépend. Si vous avez péché, confessez-le à Dieu en lui demandant son aide pour ne pas recommencer. Si ce péché est connu d'autres personnes, si ça affecte d'autres personnes, si ça affecte votre relation avec d'autres personnes, vous devez, c'est impératif, régler cela avec cette personne ou ces personnes. Et vous devez aller lui demander pardon. Tous les péchés sont graves aux yeux de Dieu. Mais il reçoit aussi avec bienveillance tous ceux qui lui demandent sincèrement pardon. Je ne connais personne qui ait été rejeté par Dieu parce que son péché était trop gros ou trop long. Dieu pardonne. Confessez et abandonner son péché, je vous renvoie à Proverbe 28, c'est aussi également ne pas donner prise à l'adversaire. Et là, je vous renvoie à 2 Corinthiens 10, à Jacques 5, à 1 Pierre 5, 8. Dans ce domaine, les attitudes extrêmes ont été, et malheureusement sont encore, adoptées dans certains milieux chrétiens. Dans certains milieux chrétiens, on exagère l'importance de la question du péché. Non pas pour ce qui est du besoin d'être pardonné par Dieu, un besoin qui peut d'ailleurs être exagéré, mais par ce que j'appelle une dérive. Une dérive qui consiste à voir le péché partout. Vous avez des gens qui voient le péché partout. Et le problème aujourd'hui, c'est que vous avez des gens qui ne voient nulle part. Et d'autres qui le voient partout. Et vous avez des églises qui sont comme cela. Elles voient le péché partout. Et donc, comme elles voient le péché partout, comme peut-être tu vois le péché partout, ton réflexe, c'est quoi? Eh bien, c'est de te mettre sur tes gardes. C'est de te mettre sur tes gardes. Et la seule façon pour toi, ou pour cette personne, d'être tranquille sur ce point, je dis bien la seule, c'est la seule et unique, c'est de devenir légaliste. Et moi je dis, et ça je vous permets de le dire, aux autres, pour moi le légalisme, c'est un péché. Minimiser la question du péché en le reléguant au rang des théologies du passé, ou en expliquant les phénomènes psychologiques seulement selon les doctrines en vogue, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences sociales, c'est pas, je crois sincèrement, conforme à la vérité qui est enseignée dans la parole de Dieu. Et de surcroît, ça ne me permet pas de dénouer des situations qui nécessitent, je le crois, pour s'en sortir, une capitulation qui soit une capitulation claire. Et moi, je dis que si nous voulons une capitulation claire, ça commence avant tout par reconnaître cette erreur. Reconnaître ses fautes. Si je ne suis pas prêt à reconnaître mes torts, à reconnaître mes fautes, je ne suis pas en retraite. C'est trop facile de dire « j'y suis pour rien, moi ». C'est de sa faute à lui. Ça, c'est le péché d'avoir rien. Qu'as-tu fait ? Et dans le cas tu fais, en hébreu, je vous fais grâce de l'hébreu, mais dans le cas tu fais, c'est j'ai une solution pour toi. Regardez l'hébreu, vous verrez, c'est marqué. Dans le cas tu fais de Dieu, il y a sous-entendu j'ai une solution pour toi. Et la solution aurait été qu'Adam dise j'ai péché contre toi, Seigneur, je demande pardon, je t'ai désobéi. Maintenant viens à mon secours. Et le problème, il est simple, c'est que quand Dieu lui dit qu'as tu fais, au lieu de dire mais, j'ai péché, mais moi je ne l'en fais. C'est pas moi, c'est elle. Et quand Dieu va voir elle, il dit qu'est-ce que t'as fait? Sur un autre ton quand même. Qu'est-ce que t'as fait? Ben je l'ai dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Et ça vous trouvez dans l'église. Quand il y a un problème, c'est jamais la faute de personne, c'est toujours la faute de l'autre. Du pasteur, maintenant. Parce que c'est lui qui a payé pour ça, hein. Donc s'il y a un problème, c'est de sa faute. Ok? Donc, reconnaître ses torts, reconnaître sa faute. Sachons, frères et sœurs, chers amis, rester équilibrés dans ce domaine. La parole de Dieu, notre conscience, c'est le bon sens dans notre vie quotidienne, qui nous permet de vivre chaque jour avec Dieu. Alors, ouais. Je vais terminer. Alors, il y avait un slogan, vous vous rappelez, dans les années 80, il y avait un slogan publicitaire qui disait « La vie est trop courte pour s'habiller triste ». Vous vous rappelez de ce slogan ? C'était un slogan publicitaire des années 80. Moi, je voudrais, maintenant, parce que je termine, parodier cette formule en disant qu'on pourrait dire que la vie est trop courte pour en rater le but. La vie est trop courte pour en rater le but. Ne serait-elle qu'une courte parenthèse entre une naissance venant du néant et une mort qui mène au néant ? Parce que notre vie aux yeux de Dieu, elle est rien. Je m'excuse de vous le rappeler, mais elle est rien. Je le dis souvent dans les enterrements. Hein? Alors, je sais que vous ne venez jamais aux enterrements de jeunes, ça c'est pas drôle, l'enterrement c'est jamais drôle. Mais je rappelle aux vivants que la vie, elle est courte. Vous savez, Moïse dit la vie devant toi, Seigneur, c'est comme un rêve. Et moi, j'ai discuté avec un jour, il y a plusieurs années de ça, avec un spécialiste à Paris, qui m'a dit, vous savez, monsieur le pasteur, c'est très simple. Un rêve, ça ne dure que 2 minutes. Alors, vous avez dormi 8 heures, 7 heures, vous avez dormi plus 4 heures si vous avez regardé une match de football. Et vous pensez avoir dormi, vous pensez avoir rêvé pendant 8 heures. C'est faux. Vous avez rêvé 2 minutes. Le rêve a duré 2 minutes, après, c'est votre cerveau qui a. Et ma question était très simple, spécialiste. C'est que se passe-t-il, monsieur le professeur, si je rêve pendant plus de 2 minutes ? Et il me répond, monsieur le pasteur, c'est impossible. Si vous rêvez plus de 2 minutes, votre cerveau explose. Et aux yeux de Dieu, ta vie, ma vie, elle ne dure que 2 minutes. Qu'est-ce qu'une vie par rapport au néant ? C'est pour ça que je dis, ma vie serait-elle une courte parenthèse avec une naissance qui va mener à une mort et que cette mort va me mener au néant ? Et la question que j'aimerais poser maintenant, j'en ai pour 1 minute, chronomètre en main, quel objectif est le plus important ? Quel objectif plus important que celui de savoir pourquoi nous vivons ? Pourquoi nous vivons ? Où pouvais-je trouver un sens à ma vie ? La dépression, comme toutes les épreuves de la vie, elle permet ceci. La dépression permet de s'interroger sur les vraies valeurs. Et dans ce siècle à la fois instantané, alors on peut s'en plaindre, moi j'aime bien le café bien préparé, aujourd'hui on vous met une cuillère de machin, c'est du café. C'est de l'instantané, alors on vous met une soupe, vous mettez dans le machin la vaisselle là, qui chauffe, et puis en 1 minute vous avez une soupe. Nous sommes dans un siècle instantané, et c'est fini le siècle des grands-mères qui coupaient les légumes, qui les lavaient, qui jetaient, c'était pour certains une soupe de légumes. Mais ça existe encore, mais malheureusement, nous sommes dans un siècle éphémère. Et je crois que nous devons nous poser les bonnes questions. Celles que le tourbillon de la vie reporte toujours à plus tard. Vous savez, quand j'étais à Web, pas opération, pas l'Olympique de Marseille, opération mobilisation, à cette époque, j'étais jeune, j'avais les cheveux longs, et on distribuait à la sortie du métro une espèce de flyer. Qui existe encore aujourd'hui, je ne sais pas, sur lequel on voyait la vie est trop courte, on est trop jeune pour y penser, trop insouciant pour y penser, et puis trop tard, on voyait une tombe qui s'est marquée trop tard pour y penser. Et on distribuait ces courriers-là. Hein? Mais dans ce siècle qui est à la fois instantané et éphémère, je crois que nous devons nous poser des vraies questions. Et je n'ai pas le droit de reporter ces questions à plus tard. Parce qu'elles permettent de replonger ses racines plus profondément. Nous sommes, je le dis franchement comme je le pense, nous sommes comme des arbres menacés de sécheresse. Et je voudrais terminer avec ce merveilleux verset. Comme un cerf soupire après les eaux d'un ruisseau, de même je soupire après toi, Seigneur, parce que j'ai soif du Dieu vivant. Voilà. Je rappelle juste que vous aurez l'occasion de vous poser vos questions entre la poire et le fromage. J'ai mis un tout petit peu long, mais comme vous l'avez vu, j'ai sauté 5 feuilles. Donc j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Mais voilà, l'essentiel, je crois, a été dit. Je vous remercie pour votre attention.